Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un adolescent palestinien a été tué par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère palestinien de la Santé. La situation au Liban, nous essayons d'apporter de l'aide à la société civile tout en ayant une approche soutenue vis-à-vis des écoles. Des mots de la sénatrice Christine Lavarde, présidente du groupe d'amitié France-Liban au Sénat. Elle a accepté d'apporter son soutien à l'association Patrimoine Tripoli-Liban qui organise un dîner le 31 mars au Sénat. Christine Lavarde sera l'une de nos invitées. L'Ukraine se prépare à une guerre contre la Russie. Les autorités de Kiev annoncent la mobilisation des réservistes de l'armée. Le pape François déplore les scénarios de plus en plus alarmants qui se profilent en Ukraine et menacent la paix de tous. Inquiétude alors que les craintes d'une escalade militaire par Moscou sont au plus haut. Les femmes fonctionnaires en Afghanistan doivent se voiler la tête, même avec une couverture si nécessaire, sinon elles risquent de perdre leur emploi. Un avertissement du ministère afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est son nom. Regard sur les aspirations de la jeunesse à l'approche de l'élection présidentielle en France. Le pouvoir d'achat et l'écologie sont les principales préoccupations des électeurs de moins de 30 ans, selon un sondage Ipsos pour la FAGE, le principal syndicat étudiant. Son président, Paul Maillot, sera l'un de nos invités. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice et candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, extrait dans votre édition. Un adolescent palestinien a été tué hier par les forces israéliennes. C'est arrivé en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère de la Santé à Ramallah. Mohamed Shehadeh était âgé de 14 ans. Il a été tué par des tirs à Al-Hader au sud de Bethléem. Il faut jeter au Liban les bases d'un filet social qui aujourd'hui n'existe pas. Un appel de la sénatrice, présidente du groupe d'amitié France-Liban, Christine Lavarde. Elle a accepté d'apporter son soutien à l'association Patrimoine Tripoli-Liban qui organise un dîner le 31 mars au Sénat. Objectif, lever des fonds en faveur de projets humanitaires au Liban. Christine Lavarde, présidente du groupe d'amitié France-Liban au Sénat.
Nous sommes là pour faire vivre l'amitié entre les deux pays. C'est la raison pour laquelle le groupe d'amitié s'est rendu pendant 6 jours au Liban au mois de juillet dernier, de manière à prendre connaissance de l'état réel du pays et d'avoir des échanges avec les différentes forces politiques en présence. Ainsi, et ça nous l'avons vraiment souhaité, différents représentants des institutions de la société civile. J'entends par là monde de l'éducation, monde hospitalier. Parce que aujourd'hui, l'aide que nous essayons nous d'apporter, eh bien, de l'aide à la société civile, tout en ayant une approche soutenue vis-à-vis des écoles.
Et lorsque vous discutez avec les représentants de la société civile libanaise, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos ?
Ils aspirent à une. Quand on les écoute individuellement, chacun nous exprime son souhait de changement, de voir arriver une nouvelle classe politique, de constituer un nouvel État libanais, ou en tout cas de donner corps à cet État libanais, parce que ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, être libanais, avoir la citoyenneté libanaise, n'apporte aucun avantage. Les avantages sont apportés par les confessions, par la confession religieuse. Aujourd'hui, si vous êtes en un état de situation précaire, vous allez vous tourner vers votre groupe confessionnel qui va venir vous apporter du secours. Ce qui donne d'ailleurs une importance très forte, par exemple, au mouvement du Hezbollah, qui est doté de moyens financiers que tous les autres n'ont pas forcément, et donc lui donne une vraie importance dans l'organisation du Liban. Donc il nous semble vraiment important, et c'est aussi ce que nous avons essayé d'expliquer, qu'il faut aujourd'hui jeter au Liban les bases d'un contrat social, c'est-à-dire assortir de la citoyenneté libanaise un minimum de services en matière de santé, d'éducation et après par là même d'alimentation. Un peu un filet social qui aujourd'hui n'existe absolument pas et qui est procuré justement par le système confessionnel.
Et sur le plan culturel également, vous soutenez le Liban, vous soutenez l'association Patrimoine Tripoli Liban. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'engagement de cette association et nous dire pourquoi vous avez choisi d'apporter votre soutien?
C'est l'association qui est venue me demander de parrainer le prochain événement qu'ils organisent à Paris. Donc c'est une association qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui a déjà organisé des événements d'importance et qui, en essayant de mobiliser des moyens, notamment de la diaspora, cherche à contribuer au maintien du capital architectural, patrimonial de Tripoli. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans une situation économique qui est désastreuse, hein, je pense qu'on peut employer cet adjectif, le patrimoine et même le patrimoine naturel se trouve mis à mal. Hein. Encore récemment, je lisais un article sur la déforestation en cours, puisqu'à partir du moment où les Libanais n'ont plus les moyens de se chauffer, ben on retourne au moyen de chauffage le plus ancestral, à savoir la combustion. Et donc là, il n'y a pas de coupe bien réglée comme on pourrait l'avoir dans une gestion des forêts. C'est on coupe les arbres les uns derrière les autres pour se procurer du bois de chauffage. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la situation économique fait que tout l'attachement au patrimoine naturel ou architectural, il n'y a plus le moyen de le faire. Donc le fait que des associations en fait viennent se substituer à l'État semble d'importance, et on l'a vu lors de notre séjour quand on a visité la ville de Beyrouth. Aujourd'hui, la reconstitution des quartiers historiques dévastés par l'explosion du 4 août est faite par des organisations internationales qui vise justement à reconstruire le patrimoine détruit et le reconstruire en venant aussi supprimer, entre guillemets, les verrues qui étaient arrivées au fur et à mesure que l'activité économique s'était faite dans ces rues. Donc pour essayer de retrouver quelque chose d'esthétiquement joli, quand on est attaché à son pays, on est aussi attaché à ce qui lui donne sa richesse architecturale, patrimoniale, qui fait venir du tourisme. Et aujourd'hui, le Liban a toujours été historiquement un pays de tourisme. C'est quand même dans la zone du Proche-Orient le seul pays qui bénéficie de telles conditions climatiques, c'est-à-dire à la fois de l'eau, des zones de montagne où la température est tout à fait acceptable, un bord de mer. Mais aujourd'hui, la vocation touristique du pays se trouve quand même, je trouve, mis à mal par le fait qu'il n'y a pas une attention forte qui est attachée à la protection de l'environnement. Enfin, moi, j'irai jamais me baigner sur les plages de Beyrouth. Enfin, voilà, on n'a pas du tout les mêmes règles de protection et de conservation que ce qu'on peut avoir dans l'Union européenne, notamment aussi parce qu'on sait bien que toutes ces politiques-là, ce sont des politiques de pays riches. Aujourd'hui, le Liban est quand même dans une crise économique et sociale qui fait qu'il faut... Enfin voilà, les Libanais s'attachent déjà à la première question qui est celle de la subsistance.
La sénatrice Christine Lavarde, présidente du groupe d'amitié France-Liban au Sénat. L'Ukraine se prépare à une guerre contre la Russie. Les autorités de Kiev annoncent la mobilisation des réservistes de l'armée. Dans ce contexte, les premières sanctions des Occidentaux contre la Russie après sa décision de reconnaître des territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine entreront en vie vigueur dès ce soir. Elle concerne les secteurs financiers et de l'énergie. Le président russe insiste ce mercredi sur le caractère non négociable des intérêts et de la sécurité de son pays. Vladimir Poutine, qui se dit parallèlement disposé à des solutions diplomatiques dans la crise avec l'Ukraine. Et ce matin, la ministre britannique des Affaires étrangères a estimé hautement probable que le président russe Vladimir Poutine veuille envahir l'Ukraine et prendre sa capitale, Kiev. Dans ce contexte, le pape François a déploré ce mercredi les scénarios de plus en plus alarmants qui se profilent en Ukraine et menacent la paix de tous. Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios de plus en plus alarmants s'ouvrent, selon les mots du souverain pontife à la fin de son audience générale hebdomadaire. Je prie toutes les parties impliquées pour qu'elles s'abstiennent de toute action qui pourrait provoquer encore plus de souffrance aux populations, a ajouté le pape. Les femmes fonctionnaires en Afghanistan doivent se voiler la tête, même avec une couverture si nécessaire, sinon elles risquent de perdre leur emploi. Un avertissement du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. La plupart des femmes occupant des emplois publics ont été interdites de retourner travailler depuis la prise de pouvoir des talibans en août dernier en Afghanistan. Plusieurs rassemblements hier en Algérie à l'occasion du 3e anniversaire du Irak. Ce mouvement populaire qui a notamment entraîné la chute de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Des militants ont été interpellés dans plusieurs villes comme à Alger, Mostaganem, Blenheim, Skikda, Ouargla, Béjaïa, Saïda, Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Oran et Djidjel, selon le Comité national pour la libération des détenus. Et le président algérien s'est entretenu hier à Doha, au Qatar, avec son homologue iranien. Des entretiens en marge de la participation des deux chefs d'État au 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le taux d'inflation annuel au Maroc a augmenté de 3,1% en janvier 2022, cela dans un contexte de hausse des prix des matières premières à l'échelle internationale. Le Haut Commissariat au Plan indique que cette hausse de l'inflation est due à la hausse des prix alimentaires de 4,3% et des prix non alimentaires de 2,3%. Regard sur les aspirations de la jeunesse à l'approche de l'élection présidentielle en France. Le pouvoir d'achat et l'écologie sont les principales préoccupations des électeurs de moins de 30 ans. Les questions liées à la santé sont aussi une préoccupation importante. C'est ce qu'indique un sondage Ipsos pour la FAGE, le principal syndicat étudiant. Cette enquête révèle que plus de 80% des jeunes interrogés comptent aller voter en avril prochain. Entretien avec le président de la FAGE, Paul Maillot.
On a 8 jeunes sur 10 qui se disent prêtes et prêts à aller voter, mais tout de même, plus précisément 66% des jeunes qui aujourd'hui considèrent que les responsables politiques ne prennent pas suffisamment en compte leurs préoccupations, ou en tout cas leur situation également, préoccupations qui par ailleurs sont le pouvoir d'achat, le climat, l'environnement ou les inégalités sociales qui arrivent en tête, et de fait, une partie d'entre elles et eux qui se dit prêt à aller aux urnes n'en est pas certain. Et il faut absolument qu'on puisse avoir dès demain la situation des jeunes et toutes leurs préoccupations qui arrivent à nouveau, ou en tout cas qui sont réellement traitées par les candidates et les candidats, afin qu'ils puissent s'identifier et rendre aux gens le 10 avril.
Les préoccupations des jeunes sont-elles suffisamment exprimées dans les médias ? Quel est leur ressenti sur ce sujet ?
Non, aujourd'hui, les jeunes considèrent que leurs préoccupations, les sujets qui les inquiètent le plus, notamment les questions autour du pouvoir d'achat, des inégalités, du climat, de l'environnement ou encore de la santé, ne sont suffisamment pas traités dans les médias, dans le débat public de manière générale. C'est un jeune sur deux, en tout cas, qui ressent ça.
Ce manque d'attention des candidats vers les jeunes, c'est en tout cas un ressenti. Comment l'expliquez-vous, sachant que c'est un électorat particulièrement important et un électorat prisé par les candidats ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très difficile à décrire, puisque, comme vous l'avez souligné, on a tout de même une personne sur cinq, en tout cas en mai l'année dernière, qui est inscrite sur les listes électorales et qui était un jeune. Et c'est quand même un poids qui pèse énormément sur le choix d'un candidat ou non. Et c'est regrettable aujourd'hui que les personnes qui aspirent à la présidence de la République ne prennent pas en compte, ou en tout cas pas suffisamment, ou parfois mal, tout simplement, les préoccupations des jeunes qui sont l'avenir du pays.
Dans cette enquête, élection 2022 vers une jeunesse oubliée, point d'interrogation, vous revenez également sur la santé mentale des jeunes durant cette crise sanitaire et après les différents confinements. C'est un élément important.
Oui, tout à fait. La situation des jeunes sur des aspects inhérents à la santé mentale sont particulièrement frappants. La question de la précarité également, mais pour revenir à la thématique, on a 60% des jeunes qui se disent exprimés, 58% d'entre elles et eux qui se disent anxieux, un jeune sur cinq qui cumule ses sentiments avec d'autres, comme la tristesse. Donc c'est vraiment une situation qui préexistait à la crise sanitaire, tout de même, je pense qu'il faut le rappeler, mais a été fortement exacerbée par celle-ci et continue malheureusement encore aujourd'hui.
Et c'est pourquoi la jeunesse, aujourd'hui, accorde une place importante à la question de la santé. C'est aussi ce qui ressort de cette enquête.
Oui, tout à fait. La santé, juste après les questions de climat, d'environnement et derrière encore les questions de pouvoir d'achat, sont au final les préoccupations qui vont plus faire pencher les jeunes vers un candidat ou un autre. C'est vraiment les sujets qui sont dans leur quotidien, qui les touchent particulièrement et en tout cas pour lesquels ils ont des sentiments très particuliers.
En tant que président de la FAGE, le premier syndicat étudiant, quel message souhaitez-vous adresser à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle suite à cette enquête ?
À partir du moment où on a pu mettre en avant le fait que les jeunes qui constituent aujourd'hui l'avenir du pays, du fait qu'ils ne soient pas suffisamment écoutés, du fait que leur situation ne soit pas suffisamment considérée par les responsables politiques, il appartient désormais aux personnes qui aspirent à la présidence de la République de les prendre réellement en compte parce qu'il est impensable de penser l'avenir sans celles et ceux qui le porteront.
Il y a un élément important également, ce sont les canaux de communication. Les responsables politiques utilisent-ils suffisamment, selon vous, les canaux de communication utilisés par la jeunesse aujourd'hui ?
Concernant l'utilisation que les responsables politiques peuvent avoir des médias de communication qu'utilisent les jeunes aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'entre elles et eux ne s'y rendent pas forcément. En revanche, qu'ils puissent s'y rendre ou non, n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, aucune personnalité politique, aucun responsable qui s'est présenté, en tout cas en tant que candidate ou candidat, la présidence de la République, ne traite suffisamment, quel que soit le format, des thématiques qui vont concerner la jeunesse ou qui va les intéresser.
Le président de la FAGE, le principal syndicat étudiant, Paul Maillot. Après avoir été prolongé deux fois, le plafond des titres restaurant à 38 euros par jour au lieu de 19 l'est à nouveau, un dispositif jusqu'à fin juin. Les titres restaurants pourront être utilisés les week-ends. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice et candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, l'écologie ne peut être que centriste extrême.
Ben moi, je pense, avec beaucoup de Français, qu'on ne peut pas être écologiste et de gauche et qu'on ne peut pas être écologiste et de droite. L'écologie, elle ne peut être que centriste puisqu'elle est transversale, qu'elle appartient à tous les partis et par conséquent, il faut cesser d'être sectaire et parler à tous parce que l'air, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, l'eau, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Pareil pour les forêts et par conséquent, il est capital de montrer qu'on est ouvert à tout le monde pour faire réussir l'écologie politique en France.
Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice et candidat à l'élection présidentielle. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme.